la sexploratrice.
La sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
De retour avec Mel et Max. Vous écoutez la sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X. Si vous n'étiez pas à l'écoute pour le premier segment, le premier bloc, je vous conseille fortement de vous rendre à la rediffusion. Allez réécouter ça. Il a fait chaud en place.
Il a fait chaud.
Les autres aussi ont eu chaud.
Oui, je pense que oui. Je pense que ça en a attisé quelques-uns.
Oui, absolument. Donc, c'était Lisandre Murphy-Gauthier du magnifique Cirque Intime, de l'organisation Cirque Intime, qui est cofondatrice, co-créatrice avec David, du Cirque Intime qui présente Tapas et Poésie au magnifique Club L le 2 mai prochain. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Donc, c'est de la littérature érotique mélangée avec des tapas, de la poésie, ça le dit. Donc, manquez pas ça, ça vaut vraiment la peine comme soirée.
Je trouve ça cool de la façon dont ça a l'air d'être fait, sincèrement. Tu sais, quand on parle de poésie, habituellement, dans des soirées, on pense à un sous-sol d'église, puis quelqu'un qui nous parle de montagne puis de soleil pendant 15 minutes, exact. Exact. De quoi à se mettre la tête dans le lavabo pour avoir un peu d'eau dans la face, là. Mais la façon dont...
On est loin de ça, là.
Ouais, mais on est vraiment loin de ça. Puis je trouve que c'est une belle sortie à faire, non seulement pour mettre le pied dans l'univers olé olé, là, l'univers libertin, prendre la mesure de qu'est-ce qui se passe là-bas, mais surtout faire autre chose qu'aller au cinéma, par exemple, aller voir une pièce de théâtre, aller voir de quoi d'un peu plus alternatif, qui offre quelque chose de somme toute assez unique et qui peut nous donner des chaleurs.
Voilà, c'est vraiment une belle sortie de couple ou en solo avec vos chums de filles, whatever. Là, c'est vraiment une belle sortie. Puis vous n'êtes pas obligé de faire partie du milieu libertin là pour aller à cette soirée là. Max, moi j'aime ça quand on a nos petits moments comme ça. Mais Max, on a j'aime ça appeler ça une soirée ping-pong. On se pitche des sujets. Mais moi j'ai le mot du jour à te présenter. Mais juste avant, j'aimerais que tu nous présentes ta chronique autour du monde.
Viens avec moi, mon ami. Nous allons voyager. Prends ta valise, mon ami. Il faut s'en aller.
Donc, la chronique autour du monde, Marc, la dernière fois, tu nous as vraiment impressionnés. Hein? Tu nous as présenté des faits étonnants et vraiment très intéressants en lien avec la sexualité autour du monde. Puis là, tu récidives ce soir.
Ben absolument. Merci, là, je vous ai impressionné. Le mot est large, mais je trouve que c'était impressionnant de voir à quel point les gens consommaient et pratiquaient la sexualité de façon différente. Parce qu'on est vraiment pris dans notre petit Québec parfois, puis on a du mal à concevoir comment il peut y avoir tant d'autres options dans le domaine de la sexualité, mais il y en a. Je commence cette chronique ce soir avec le Festival du Japon au pénis. Le Festival du pénis au Japon.
Bienvenue dans la ville du pénis.
La distinction, elle est importante. Eh oui, imagine-toi donc qu'au Japon, il y a le Festival du pénis qui se fait à chaque année dans la ville de Kawasaki. Pas la moto, là, mais bien la ville. Il y a un festival appelé Kanamara Matsuri où les gens célèbrent la fertilité, la santé sexuelle et la diversité sexuelle en portant des statues de phallus géantes dans les rues. Il y en a qui portent des costumes. Il y en a, comme je viens de le dire, qui arborent des grandes statues dans leurs mains et essaient de les montrer à tout le monde.
Puis c'est dans quel but, en fait, on célèbre le phallus? C'est dans le but de rendre hommage à cet outil, cet engin, ce membre très important, finalement.
C'est un membre très important, le phallus. Là. Sans phallus, il n'y aurait pas d'enfant.
Mais non, exactement.
Hein? On l'oublie souvent, ça.
Ben oui, il y a d'autres méthodes, mais effectivement que l'humanité n'aurait pas été bien loin sans ça.
Alors, c'est pour ça que les Japonais, une fois par année, dans cette petite ville-là, dans cette localité qui se nomme Kawasaki, fêtent le phallus, ni plus ni moins. Mais c'est quand même surprenant. Moi, mettons que je suis un touriste, puis je m'en vais là en voyage, puis je me réveille un matin, puis je suis pas au courant de ce qui se passe. Tu sais, tu te réveilles le mardi matin... T'en vas déjeuner, manger une petite pâtisserie japonaise.
Le festival du pénis, toi, chose.
Mais t'arrives dans la rue, puis il y a des graines partout. Tu te dis, misère. J'aurais dû choisir une autre destination voyage.
Eh là là, OK. Ça en passe-tu des choses au Japon, hein?
Ouais, je trouvais. Ça en passe pas mal des choses au Japon. Puis ils sont quand même reconnus aussi pour être assez exubérants, puis faire des choses qui sont hors de la norme, disons.
Ben oui, mais étrangement, au Japon, c'est quand même un des endroits dans le monde où il y a le moins. Tu sais, la culture et tout, il y a le moins de. Comment dire, je pense que le taux de natalité a baissé comme de 30% ou quelque chose comme ça. Là, c'est quand même fort. Les jeunes sont tellement professionnels, carriéristes, qu'ils ont de moins en moins de contacts et de relations humaine, amoureuse et tout ça. Donc, oui, il y a la naissance des cafés câlins, des love dolls, des poupées sexuelles et tout. Mais les relations entre les jeunes, les professionnels et tout, là, c'est de plus en plus difficile.
Oui, mais il y a beaucoup de codes culturels qui sont compliqués, là. Beaucoup de choses. J'ai l'impression que la culture japonaise s'opère beaucoup dans le non-dit. Puis t'as mis le doigt sur de quoi d'important. Je pense que la montée en puissance puis la prolifération des poupées là, que tu peux coucher avec, je pense que ça joue pour beaucoup là-dedans. T'sais. Le Japon, c'est très, très technologique comparé à nous. C'est deux mondes complètement différents. Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Japonais qui se tournent vers l'intelligence artificielle, vers des love dolls qui sont capables de leur parler, qui remplacent peut-être un ou une partenaire.
Ben exact. Puis, tu sais, des applications de rencontres comme Tinder ou autres, jusqu'en tout cas, présentement, je ne sais pas, mais jusqu'à tout récemment, ils ne rentraient pas au Japon, là. Il n'y avait pas d'application de rencontre de type Tinder et tout ça. Là,
ben, ça ne m'étonne pas
si longtemps. Là, j'ai un ami qui est là-bas qui me disait hey, « ça prend tellement, go see you au Japon. » J'ai regardé d'ailleurs pour faire traduire mon app. C'était pas si pire.
Ah oui?
Ça avait bien du bon sens. Oui, il reste à la faire pénétrer là-bas. Mais
La faire pénétrer, c'est le bon terme.
Un jour, un autre projet.
Bon, ben, en tout cas.
As-tu d'autres nouvelles autour du monde à nous présenter?
Ben oui, puis regarde, en terminant, là, si jamais les poupées d'Aura, ça vous excite, tout comme les grands phallus, ben vous saurez où aller. Hey, on se transporte en Iran. L'Iran. Hein? On connaît l'Iran pourquoi? Pour être une terre très conflictuelle. Il n'y a pas grand-chose de bien qui se passe en Iran, d'après ce qu'on comprend. C'est un pays qui est toujours en guerre. Quoique, il y a beaucoup d'avancées technologiques qui sortent de là quand même. Ils ont des ingénieurs, des scientifiques de grand talent. Mais il y a quelque chose qui m'étonne de ce pays-là. Bien, qui m'étonne, oui et non, dans le sens où, dans plusieurs pays de cette région-là du monde, les mariages et l'amour avant le mariage, c'est quelque chose de fondamental dans leur culture. Si tu veux faire l'amour avec ton ou ta partenaire, faut que vous soyez mariés. Mais l'Iran a mis en place une politique de mariage temporaire pour justement pouvoir déjouer le fait de « Ah, on n'est pas mariés ensemble, on ne couchera pas ensemble. » Tandis que la plupart des gens, souvent, pour mesurer l'attirance chez une personne, pour mesurer l'amour et le potentiel d'une relation, il faut coucher avec. Alors, eux autres, ils ont mis en place cette espèce de politique de mariage temporaire-là pour voir s'il y a un fit au niveau des relations sexuelles dans le lit, sous les draps, avant de faire un vrai mariage. Donc, ils se marient de façon temporaire pendant quelques semaines, ils voient si ça fonctionne, ils voient s'ils sont épanouis au niveau sexuel, et par la suite, ben, ils se divorcent temporairement pour se remarier de façon permanente.
Mais voyons donc.
C'est bizarre, hein?
Hey.
Et ils font ça pour la simple et bonne raison que c'est important pour eux de respecter les normes culturelles. Puis qu'ils veulent pas aller à l'encontre de ça parce que c'est très mal vu. Donc, c'est quand même fou l'esprit humain. Ils se font des,
là,
ils se font des jeux
d'esprit.
Ouais, c'est ça, ils se font des jeux d'esprit pour se faire des accroires que c'est correct,
c'est
mais dans le fond...
C'est pour s'enlever la culpabilité de pas respecter la religion.
Effectivement.
Conventionnel, mais je veux dire, tu te la déjoues quand même, me semble.
Mais je trouve que c'est quand même une bonne chose, d'une certaine façon, parce que, il me semble que, regarde, je sais, tu m'as déjà avoué...
Mais rendu là, je veux dire, c'est un faux mariage.
Ben, c'est un faux mariage, qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, aux yeux de la religion, là, aux yeux de leur culture, là, je veux dire, c'est un mariage temporaire, c'est... Ça devrait même pas être valide.
Non, c'est ça,
ils
mais ça
l'est. Ils ont fait leur virginité... en réalité, avant... En tout cas,
C'est fascinant parce qu'il y en a qui durent... Parce que le mariage temporaire, là-bas, c'est vraiment... C'est quelque chose de commun, OK? C'est juste, comme je le disais, pour respecter les normes sociales, pour des raisons religieuses, comme tu l'as dit aussi, ou sociales. Mais il y en a que, évidemment, lorsqu'ils sont dans le mariage temporaire, ils décident de rester ensemble, puis le mariage temporaire devient le mariage permanent. Mais il y en a aussi qui font des mariages temporaires de seulement quelques heures. C'est-à-dire que tu rencontres une fille le soir, le vendredi soir, le samedi, tu la revois, tu te dis « Ah, il me semble que j'aimerais ça qu'il se passe de quoi avec, mais on n'est pas mariés, puis on ne veut pas aller à l'encontre du pays dans lequel on vit et de la culture qui nous englobe. » Alors, ils font un mariage temporaire de quelques heures, ils couchent ensemble, ils divorcent, puis après ça, ben c'est comme normal.
Mais là, j'imagine, il faut passer devant un juge ou devant quelqu'un là, qui célèbre ce faux mariage, ce mariage temporaire. Je veux dire, il y a un délai, là.
Ah ben oui, mais c'est... Écoute...
C'est pas genre une application. J'ai envie d'elle, mariage temporaire.
Hey, t'imagines-tu, là, s'il fallait passer devant le juge pour coucher avec quelqu'un sur Tinder?
Ben non, mais ça n'a pas de bon sens.
Ah, il y a des niveaux de complexité.
Mais non, mais on dirait que j'arrive pas à comprendre...
Ben, en fait, ils se font des jeux d'esprit puis ils se font des accroires juste pour pas pour préserver la culture, autrement dit, puis pour pas aller à l'encontre
là,
de celle-ci.
Mettons que le mariage temporaire fonctionne pas, ils divorcent, mais bon, là, il y a un truc lié à la virginité, j'imagine, ou non?
Qu'est-ce que tu veux dire?
ben tu sais, comme bon, la religion catholique, là, si on la respecte vraiment, ben pas d'amour avant le mariage, on consomme pas avant le mariage, on doit rester vierge. Avant le mariage, on s'entend, là, c'est pas sur la vraie vie, là, mais bon, selon la religion, ce serait ça. Est-ce que c'est la même chose chez eux? Mais là, c'est-à-dire que s'il y a eu un mariage temporaire, il y a eu les gens ont consommé la sexualité, mais ils ont perdu leur virginité, donc c'est plus valide.
Ouais. Après? D'après moi, il y a beaucoup de femmes comme Hélène Boudreau là-bas. Là. c'est des nouvelles vierges.
Mais dans quel monde on vit?
Ah, c'est fou, hein?
Oh non, on juge pas, on juge pas.
On juge pas. Mais gars, je te propose qu'on continue à. Parler de mariage, mais qu'on se transporte à peu près dans la même région du monde, mais au Kirghizistan.
Oh.
Là, tu vas me dire, c'est où ça, Max? Google.
Oui.
Le Alakachou. OK, c'est une pratique qui existe au Kirghizistan depuis bon nombre d'années. Le Alakachou se traduit littéralement par prendre une jeune fille et courir.
Hein?
Ouais. Ce qu'ils font eux autres, c'est que là-bas, il y a une coutume, c'est ancré dans la culture, de faire des mariages par enlèvement. C'est une forme de mariage qui existe. C'est le principe où un homme enlève une femme contre son gré pour l'épouser. Évidemment, c'est une pratique illégale. J'apprends rien à personne. Mais elle reste courante dans certaines régions puis est parfois perçue comme une tradition culturelle, comme je le disais. Alors, au Kirghizistan, il est possible pour toi, si t'es un homme et que t'as pas trop de valeur morale, de kidnapper une femme et d'en faire ton épouse. Et l'entourage de la femme et l'entourage de l'homme vont l'accepter parce que ça fait partie des traditions culturelles.
Tu kidnappes une femme qui est en train de faire son épicerie, genre?
Ben, rendu là, peut-être. Là. Tu la kidnappes au maxi du Kirghizistan. Ou tu la kidnappes en sortant de la banque.
Donc.
Peut-être que
c'est
les
pas
femmes
genre ont... des femmes célibataires qui se disent « OK, on se rassemble tel soir, puis on essaie de se faire kidnapper, mettons. »
Non, non. Mais non, mais il faut comprendre aussi que la place de la femme dans ce genre de pays-là, elle prend pas beaucoup de place. Là.
Non, mais ça...
Elle se fait même beaucoup plus.
Là, on parle d'une pratique qui se fait encore aujourd'hui?
C'est encore fréquent aujourd'hui. Effectivement, c'est illégal. Donc, les autorités peuvent intervenir, mais là où ça devient intéressant, c'est que dans les deux familles, par exemple, dans la famille de la femme et de l'homme, c'est socialement acceptable de le faire. Et si jamais tu es un homme qui kidnappe une femme pour l'épouser, bon, ça crée un tumulte incroyable, c'est clair, mais les deux familles, selon les traditions culturelles qui sont implémentées dans le pays depuis sa création, n'ont pas le choix d'accepter. Ils n'ont pas le choix de faire « bon, ben, c'est ça, t'as choisi cette femme-là, ben maintenant c'est ta femme », parce que la femme, en d'autres termes, est considérée comme un objet, puis pour elle n'a vraiment pas les mêmes droits qu'ici. Là, on l'a vu avec l'Afghanistan, parce que ben, ça a fait la une de la presse pendant un grand nombre d'années. Mais ouais, c'est assez surprenant. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, hey, là, 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 hein? Le Me Too Movement, il s'est pas rendu là-bas.
C'est illégal, mais socialement accepté. Donc, il peut marier la femme qui l'a kidnappé.
Il peut marier la femme qui l'a kidnappé, effectivement. Puis la femme n'a pas un mot à dire parce que c'est l'homme qui est intervenu et l'homme... La place sociale de l'homme, elle est vraiment pas sur le même pied d'égalité que la femme. La femme, c'est rien. Là. C'est presque un objet, c'est un animal. Elle a pas un mot à dire là-dedans. C'est l'homme qui a décidé, donc c'est ce que l'homme va faire. Et la femme n'a pas le choix d'accepter. Ouais. Ça brasse dans le monde. On est-tu bien au Québec, quand même?
Tabarouette, on est bien. Non seulement on est bien, mais on est riche sans le savoir. Là. On a un toit, on a de la nourriture, on est en sécurité. On vit pas des changements au niveau climatique épouvantables. On est vraiment chanceux, sérieusement. Là,
je pense que oui.
Avec tout ce qui se passe partout dans le monde. Puis le mon Dieu, l'humain devient de plus en plus cruel. Mais ça semble être une pratique en fait qui se fait depuis longtemps. Là,
oui, c'est ancré depuis des millénaires. Là. C'est coutume là-bas.
OK.
Mais c'est fascinant de voir à quel point... Je veux dire, pour quelqu'un qui vit là-bas, c'est normal. Pour nous, c'est abject, c'est incompréhensible.
Mais non, c'est épouvantable.
Ça relève du démon pur et dur, mais pour eux, c'est considéré comme normal. Alors, l'être humain, moi, ça me fascine parce que à aucun moment, puis peut-être qu'il y en a certains qui sont capables de faire la part des choses puis de comprendre que ça n'a comme pas de bon sens, mais comme eux ont été élevés dans un pays où la femme a toujours été dénigrée et humiliée, ben pour eux, c'est normal de prendre la femme comme elle est, selon leurs yeux, un objet. Ça me fascine de... qu'il y a une aussi grande disparité entre la façon dont nous, on voit les femmes, qui sont ben, des êtres humains, là, ni plus ni moins, puis eux la voient là-bas.
Mm-hmm. aucune évolution.
Il n'y a aucune évolution qui se fait. Non,
ah, c'est triste. Donc, c'était le tour du monde avec Max ou tu as autre chose à nous partager?
J'ai pas autre chose, mais moi, t'as piqué ma curiosité tantôt. T'as dit là, Max,
oui,
j'ai un mot pour toi.
Oui! Bien, je sais pas si t'as déjà entendu ce mot-là, tu sauras me le dire. Personnellement, je l'ai jamais utilisé. Je le connaissais pas, ce mot-là, en toute honnêteté. Et le mot dont je veux te parler aujourd'hui, c'est l'intimidité.
L'intimidité quoi?
Intimidité. As-tu déjà entendu ça?
Non. Peux-tu l'employer dans une phrase, mettons?
Bien sûr. L'intimidité, en fait, c'est le feu aux joues là, qu'on a à l'idée que l'autre en sache un peu plus sur soi. Donc, des gens qui sont vraiment timides dès qu'on parle de sexualité. L'intimidité, c'est se sentir vulnérable quand on se dévoile, quand on a peur de se montrer nu dans l'intimité, les difficultés à parler de sexualité. On peut se sentir bloqué juste à l'idée que l'autre connaisse nos fantasmes, par exemple. Tu sais, il y a des gens, des fois, là, qui sont super timides de juste parler de sexualité, de sensualité. On dirait quasiment que c'est qu'ils deviennent des petits-enfants. Là. Ils sont tout « Oh, ça me gêne! » T'as-tu déjà vu des gens comme ça, un peu?
Ben oui, mais je pense que la...
On en connaît tous, hein,
mais
finalement.
Je pense que même nous, on est victime de ça de temps à autre. Là. C'est, faut quand même... Ça demande un certain effort de s'ouvrir sur ses fantasmes et sur son côté un peu plus réservé et introverti.
Mais là, on parle vraiment d'intimité, c'est vraiment, ça peut être vraiment une forme de souffrance même. Tu sais, il y a des gens qui peuvent le vivre sous forme de souffrance, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment incapables de s'ouvrir, incapables de d'imaginer une intimité ou de parler d'intimité ou de sexualité. Donc, c'est des gens qui vivent l'intimité finalement. Puis, c'est OK tant que c'est pas un problème à ta vie intime. Puis ça, tu peux aller consulter pour ça. Tu peux vraiment discuter avec des professionnels pour essayer de convaincre cette intimidité.
Mais t'arrives quoi? T'arrives devant le médecin puis tu lui dis, monsieur le docteur, je crois que je fais preuve d'intimidité. Il va te comprendre.
Ben oui, docteur, j'arrive pas dans l'intimité. Je suis incapable d'approfondir mon intimité. La lumière a beau être fermée, les couvertures sur moi, tout ça, je suis incapable de me mettre à nu. Je suis incapable, ben en fait, de discuter des fantasmes. Ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde, effectivement. C'est une forme d'intimité, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise de partager ses fantasmes. Puis il y en a même qui vont décider de garder leurs fantasmes pour eux, leur jardin secret.
Mais c'est bien, je trouve que c'est un mélange intéressant. C'est un mélange entre intimité et timidité, autrement dit.
Ben oui, exactement. Exactement.
C'est fascinant.
C'est carrément ça.
Hey, merci, j'aimais ça à moigner les yeux.
C'était le mot du jour, intimidité.
Parfait. Ce soir, avec toi, je ne fais pas preuve d'intimidité. Ça marche-tu,
non.
Ça? Non, OK, ça marche pas. Okay.
Non, c'est bon,
je vais le pratiquer.
Non, disons, tu penses que l'intimité, on n'a pas ça.
Non, c'est ça, ça fait pas partie de notre vocabulaire.
Je pense qu'on n'a pas ça. Puis je sais pas si tu as vu passer, tu sais, on parlait d'escargots là, que j'avais adoptés là, dans le temps. Là, pis,
ouais.
Mais j'aurais dû les garder. En fait, pour le secret, pour avoir une peau éclatante, ben semble-t-il qu'il y aurait un nouvel allié anti-rides et ce serait la baffe d'escargot qui fascine présentement là sur les réseaux sociaux des internautes passionnés de produits de beauté. Il y a des crèmes contenant cet ingrédient naturel qui serait efficace contre les rides. Ce serait vraiment, là, on peut même retrouver le mot clic snail mucking.
Comment t'as dit ça?
Genre d'accent anglais.
Snail mucking.
Bave d'escargot en anglais.
Oui, oui, oui.
Ça a été utilisé plus d'un milliard de fois sur TikTok.
Un milliard?
Ce sujet-là. Ouais!
Mais quel produit, par exemple, en contient?
Comment?
Quel produit, par exemple, en contient?
On peut en trouver là, sur Amazon, semble-t-il, des produits de beauté dérivés de cet ingrédient-là. Donc, c'est pas des produits qui se vendent nécessairement en pharmacie, là. Mais il y a vraiment des crèmes qui se vendent là, à base de bave d'escargot. Puis semble-t-il que c'est super bon. Donc, dans la Grèce antique, on utilisait déjà ça, la sécrétion d'escargot, pour réduire les inflammations et les signes de vieillissement de la peau. Mais depuis les dernières années, c'est vraiment une méthode qui est devenue plus populaire à cause des marques coréennes, puis de ce coin-là, là, qui mettent des trucs louches dans leurs produits, mais ça semble fonctionner.
Ah ouais. Puis ils utilisaient ça à l'ère antique, puis là, c'est de retour à la mode. C'est un peu comme le charcoal, ça, le charbon dans un pont-à-dents.
C'est vrai. Ben oui.
Ben oui. Même à quel point l'avancement, ça fait plus de progrès, là, s'il faut toujours revenir à 1000 ans en arrière pour avoir des nouveaux produits.
Ben, tu ris, mais moi, l'ostéopathie, l'acupuncture, tous ces trucs-là, là, c'est ce qui fonctionne bien pour moi, pour ma famille.
Oui, mais ça, je pense que c'est méconnu.
Même mon fils qui avait un retard de croissance staturo-pondérale important, un mystère pour les médecins, on est allé en ostéopathie, là. Ça a débloqué en 2 mois.
Ah ouais, mais je pense que ça, à contrario, par exemple, de la bave d'escargot, je pense que ce genre de pratique-là, comme l'acupuncture, c'est juste des trucs qui sont encore très méconnus en Occident.
Oui, effectivement, t'as bien raison. Mais tu vois, il y a un dermatologue ontarien là, qui confirme que le mucus d'escargot, c'est plein de vitamines A, de vitamines E, d'antioxydants. Donc, c'est super bon pour le visage.
Ça veut-tu dire que si, mettons, je vais m'acheter une canne d'escargot à l'épicerie puis je m'en mets dans le visage comme des petits cocombes pour relaxer, ça va m'aider?
Je pense pas, non.
Ah, bon.
Ça prend de la bave d'escargot.
Faites pas ça, les enfants!
Ça prend le mucus d'escargot. Quelque chose, par exemple, qu'on a tous à la maison, qui exfolie la peau vraiment bien, que tu peux mélanger avec du miel pour ton visage.
Quoi?
Ou pour ton corps avec de l'huile d'olive. Du mort de café.
Hein,
tes petites capsules de café Nespresso, là. Tu peux les déchirer, OK? Tu les découpes, tu déposes le mort de café, OK, le restant, là, ce qui te reste de granuleux. Tu déposes ça dans un petit pot. Tu mélanges ça avec de l'huile d'olive et ou du miel. Puis tu déposes ça dans la face. Tu t'exfolies le visage avec ça, mon homme. Là, ça fait du bien. Puis en plus, la caféine, là, ça active tout ton système lymphatique puis toute ta patente. Là. Ça fait vraiment du bien. Donc, c'est le truc de Dr. Mel pour ce soir.
Oui, je vois bien la face de Pee-wee là, quand il va rentrer chez vous un bon soir puis que tu vas avoir du miel puis du café de tempé partout dans la face. Puis tu vas lui dire, je fais attention à ma peau. Je pense qu'il va te trouver bizarre.
Ça se pourrait que je m'entête à ce moment-là d'intimité.
Ouais, tu vois, tout est dans tout.
Tout est dans tout. Alors voilà, Max, ça fut une belle semaine à tes côtés.
Une autre belle semaine, ben oui, encore une fois.
Une autre belle semaine. Lundi, on reçoit Mathéo du Club L, justement. Donc, on va parler de plein de trucs. On va sans doute parler, évidemment, de l'éclipse, comment vous l'avez vécu. Espérant qu'il fasse beau cette journée-là.
Ouais, ça serait le bout de la marde qu'il fasse nuageux. Hein.
Ah, ouais.
On ferme les écoles partout, mais on la verra pas.
Hein? Il arrive quoi s'il fait nuageux dehors? Est-ce qu'ils vont réouvrir les écoles?
Ben, je ne sais pas, mais veux-tu rire? Là, j'avais lu sur l'éclipse en 72 qui a eu lieu. C'était aux 50 ans à peu près. Là. Puis, en
mais
72...
J'en ai eu une quand on était au secondaire. Ben, pas toi, mais moi, secondaire 1, j'en ai eu une éclipse.
Une éclipse comme celle qu'on s'apprête à vivre lundi?
Ben, il me semble.
Mais c'est une fois aux 50 ans, d'après ce que j'ai lu.
Ben, c'est ce que j'ai lu aussi, mais Caroline, quand j'avais 13-14 ans, là, je me
mais il y a beaucoup de sortes d'éclipses. Il y a des éclipses lunaires, celles qu'on s'apprête à vivre lundi. Ça arrive une fois aux 50 ans de mémoire. Là. Peut-être que je me trompe.
C'est ce que j'ai lu, même moi, j'ai lu plus que ça. J'ai lu aux 400 ans. Fait que.
Ouais.
La prochaine est dans 400 ans. Quelque chose de genre.
Hey, me semble, on va-tu faire nos recherches puis on en parle lundi prochain?
Tellement chose de
se passer. Mais bref, longue histoire courte, là, à l'époque, en 72, là, peu importe si c'était une fois aux 50 ans, une fois aux 400 ans, quand l'éclipse avait eu lieu, il faisait nuageux. Fait que personne ne l'avait vu.
Oh! Déception.
Grosse déception.
Bon. Ben Max, ça a été un plaisir d'être avec toi toute cette semaine. Merci beaucoup, Max, le philosophe.
Merci à toi, Mel, la sexploratrice.
Yeah! Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été à l'écoute. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous étiez à l'écoute de la sexploratrice sur les ondes de choix. 98h Radio X.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.